Normalement est connue et mise en œuvre en BTS-TPL déjà. Quand on regarde le sujet décrit, on a des questionnements vraiment très généraux. Mais il ne semble pas toujours, quand on analyse après les résultats ou quand on écoute les remontées de terrain, il n'est pas certain que les étudiants soient toujours vraiment préparés à devoir être seul face à une situation et s'en débrouiller sans être guidé pas à pas. Donc notre objectif en formation professionnelle, c'est de permettre à nos techniciens supérieurs d'affronter les situations professionnelles, de pouvoir les résoudre. Alors être compétent, ça signifie quoi face à une situation professionnelle ? Ça signifie savoir agir. Et pour agir, on a besoin de quoi ? Notre étudiant ou le professionnel va devoir mobiliser un certain nombre de ressources, des ressources internes, tous ces savoirs, bien sûr, et c'est là qu'on n'a pas d'opposition hein, entre approche par les compétences et approche précédente où on était dans on transmet des savoirs et on pense qu'une fois que la personne a finalement entendu ou appris les savoirs, elle va pouvoir se débrouiller toute seule pour les mobiliser. Donc les savoirs, on en a absolument besoin, ça c'est évident, mais il y a des tas d'autres choses d'autres ressources internes, il y a tous les savoir-faire, alors qu'ils soient relationnels, procéduraux, il y a toute la dimension émotionnelle qui faisait rire Pascal hier, mais il y a toute la capacité à apprendre, quelle est ma capacité à raisonner, par exemple, capacité métacognitive, ça fait un petit peu peur, mais finalement, quand la personne sait comment elle apprend, comment elle fonctionne elle-même, c'est plus facile. Donc, nos étudiants ont besoin de ces ressources internes pour savoir agir, mais ils peuvent également accéder à d'autres ressources. C'est-à-dire que quand on va leur proposer une situation professionnelle didactisée en classe, on mettra des ressources documentaires, qu'elles soient des ressources juridiques, techniques ou autres aussi, à leur disposition. Ils doivent également pouvoir agir en accédant à d'autres ressources, en étant capable d'aller chercher l'information sur une situation particulière, mener une veille informationnelle, repérer l'information dont j'ai besoin, vérifier un point ou un autre. Et ils doivent être en capacité aussi de pouvoir mobiliser leur réseau, et de plus en plus. Donc, je peux mobiliser mon réseau à travers des outils, mais également savoir repérer la bonne personne, alors que ce soit dans mon groupe pour résoudre, pour mener le projet, ou dans l'entreprise, ou ailleurs. Donc, à nous ensuite de proposer aux étudiants des situations de monter dans le cadre des cours, des scénarios pédagogiques adaptés. Alors, quand ils sont en stage, c'est plus facile, mais ils ne le sont pas toujours.
En fait, ce qu'on leur demande à l'examen, c'est de se situer au troisième niveau de compétence, c'est-à-dire celui qui est le plus en haut dans la diapo. Savoir choisir et combiner correctement plusieurs procédures pour traiter une situation nouvelle et complexe. Nouvelle parce que c'est un contexte sur lequel ils n'ont jamais travaillé. Mais s'ils maîtrisent leur compétence, c'est qu'elle est transférable. Sinon, elle n'est pas maîtrisée. Donc, à partir du moment où elle est transférable et qu'ils sont capables de la transférer, on peut estimer qu'ils maîtrisent cette compétence. Et donc, on va leur demander d'aller puiser dans toutes les méthodologies qu'ils ont apprises, dans toutes les ressources dont ils disposent, pour pouvoir répondre à ce contexte nouveau qu'on leur propose. Mais ça, c'est ce qu'on leur demande à l'examen. Sauf que quand ils nous arrivent en début de première année, ils sont loin d'en être à ce niveau-là. Ils en sont plutôt au premier niveau, hein, dans le meilleur des cas. C'est d'ailleurs savoir exécuter une opération simple en répondant à une consigne, donc en répondant à une question. Donc là où à l'étude de cas, on va leur poser des questions qui sont très globalisantes, où ils vont devoir repérer eux-mêmes les démarches à mener, en début de première année, quand on les récupère, on a un questionnement qui est beaucoup plus précis et qui détaille pas à pas le chemin qu'ils vont devoir emprunter pour arriver à répondre à la question. Et donc notre problématique en travaillant sur les compétences, c'est de passer de ce premier niveau au dernier niveau, troisième niveau, en fin de deuxième année. Donc évidemment, ce passage, il ne se fait pas tout seul, et surtout, les élèves ne peuvent pas le faire tout seul. Donc il faut qu'on les fasse progressivement monter en niveau de compétence, c'est-à-dire passer du fait de savoir répondre simplement à une consigne précise, à, dans un deuxième temps, et c'est le deuxième niveau de compétence que vous avez sur la diapo, posséder une gamme de procédure de base et savoir laquelle ils vont devoir aller chercher dans un contexte simple. Et une fois qu'ils savent faire ça, on peut globaliser le contexte, on peut complexifier le contexte et on peut leur demander de mobiliser plusieurs compétences en même temps. Mais ce passage, il se fait forcément progressivement. Et enfin, on en est tous bien conscients face au public qu'on a en face de nous, qu'on ne peut pas du jour au lendemain de leur demander de passer du premier au troisième niveau. C'est totalement impossible. Et on peut encore moins leur demander dès le début de la première année de nous répondre à des problématiques du troisième niveau. Donc ça, tout le monde en est conscient. Maintenant, comment est-ce qu'on traduit ça dans nos scénarios pédagogiques? Comment est-ce qu'on traduit ça dans la façon dont on va aborder les choses avec les élèves? Donc, quand on va construire son scénario pédagogique, on va s'interroger d'abord sur les compétences cibles qu'on va chercher à les faire atteindre et à quel niveau de compétences je veux atteindre. Je peux d'ailleurs retravailler sur une même compétence à plusieurs moments de l'année, mais en ciblant des niveaux de compétences différents. Donc, en les faisant monter en niveau de compétences, hein, en revenant régulièrement sur des choses qui ont déjà été vues. Donc, je réfléchis d'abord à ça. Les compétences que je veux atteindre et à quel niveau de compétences je veux les amener. Je peux d'ailleurs penser à des niveaux de compétences distincts, un niveau de compétences minimum et puis un niveau de compétences un peu plus expert parce que nos classes sont hétérogènes et qu'avec certains, je vais déjà avoir du mal à atteindre le niveau minimum et puis avec d'autres, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc je peux m'interroger là-dessus dès en amont. Ensuite, il me faut créer la situation professionnelle dans laquelle je vais les positionner pour qu'ils puissent développer les compétences. Donc l'entrée par les compétences, ce n'est pas une entrée par les savoirs. Ma question n'est pas quel savoir je veux qu'ils connaissent, mais c'est quelles compétences je veux qu'ils mobilisent. Et pour ça, je vais leur créer et les mettre dans des situations professionnelles. Et pour qu'ils puissent mobiliser la compétence dans la situation, je vais être amenée à leur apporter des savoirs, des ressources. Mais ces ressources, je leur apporte parce que la situation le nécessite. Et du coup, je donne du sens aux ressources que je leur apporte. Je leur apporte parce qu'il y a un besoin. À un moment donné. Une fois que ma situation professionnelle est construite, il faut que je vérifie qu'elle mobilise bien les ressources et que je vérifie quelles ressources je vais devoir leur apporter ou je vais leur demander de trouver. Hein, leur apporter les ressources, c'est une chose. Leur demander d'aller rechercher des ressources par eux-mêmes, c'est aussi participer à la construction de leur autonomie professionnelle. Donc il faut qu'on arrive aussi à ça. Même si on est bien d'accord, le jour de l'étude de cas, ils n'iront pas chercher des ressources autres que celles qu'ils maîtrisent déjà et qu'ils connaissent déjà. Mais par contre, dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui leur sera demandé. Hein. Et enfin, il faut que je détermine les critères d'évaluation de la compétence. Il y a un beau S en trop, désolé. Donc de la compétence. Comment je vais évaluer? Alors ces critères d'évaluation, ce sont ceux qui sont dans les référentiels. Et ce critère d'évaluation, vous pouvez ensuite les développer en indicateurs. Donc comment est-ce que je détermine qu'ils ont identifié, qu'ils ont respecté la demande du client? Ça, c'est un beau critère d'évaluation, mais concrètement, moi, je le vois comment dans le travail qu'ils m'ont fourni. Est-ce que, par exemple, sur les 4 contraintes qui étaient à prendre en compte, est-ce qu'ils les ont toutes prises en compte ou est-ce qu'ils en ont pris que la moitié? Donc ça peut être un critère un peu plus objectif, un indicateur objectif me permettant de travailler sur le critère. Et en fait, il faudrait qu'on arrive maintenant à penser nos situations de cours de cette façon-là, entrer par la situation qui va nécessiter la mobilisation de compétences, plus qu'entrer par le savoir. Alors, c'est déjà des choses que l'on pratique. Les situations professionnelles, c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, il faudrait essayer l'idéal, c'est de généraliser cette démarche, y compris d'ailleurs, pourquoi pas, en CEJM appliqué, où on peut rentrer aussi maintenant par les situations en leur rapport. Et en CEJM aussi, c'est peut-être plus facile de démarrer par le CEJM appliqué, mais après, voilà, de partir sur un élargissement. C'est ce qu'on fait en langue aussi. Nos collègues de langue travaillent aussi sur des situations qui, pour être traitées par les étudiants, vont nécessiter qu'ils mobilisent du vocabulaire, etc. Donc c'est un petit peu, on voulait juste voilà, vous faire un petit point là-dessus parce qu'on est entré dans des cycles aujourd'hui d'enseignement, d'entrer dans l'enseignement par les compétences et on va aussi maintenant évaluer par compétences. Donc il faut que tout ça soit cohérent. C'est tout ce qu'on avait à vous dire sur le sujet.